Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente ?
Nous ne sommes pas la solution. Nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, dont nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
Tout de suite, nous n'avons qu'une terre sur Divergence FM.
Alors Maxime Terrillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur commercial d'Ousmoussoun. Ousmoussoun, c'est un nom qui est encore peu connu, mais qui va appeler à l'être, puisque vous venez d'entrer en bourse, donc vous allez maintenant faire partie de la Cour des Grands. Mais c'est une entreprise qui est spécialisée dans le dessalement de l'eau, le traitement de l'eau grâce aux énergies renouvelables, de l'eau de mer, bien sûr, mais aussi de l'eau saumâtre. Donc, on verra un petit peu, d'ailleurs, la différence entre ces deux notions. Donc, après, finalement, Mascara, puisque Ousmoussoun a été développé au sein de l'entreprise Mascara il y a quelque temps et devenu maintenant Ousmoussoun depuis un an, est-ce que vous pouvez nous décrire un peu cette société qui, finalement, a grandi assez vite?
Oui, bien sûr. Donc, la société Ousmoussoun, aujourd'hui, a effectivement été créée en 2014, sous le nom Mascara, à l'époque, avec pour ambition de développer des solutions de production d'eau potable pour des contextes isolés où le constat avait déjà été fait à l'époque par les fondateurs de l'entreprise que les problèmes d'approvisionnement en eau et des besoins de nouvelles sources d'eau allaient être requises à l'avenir. Et donc d'où le souhait d'amener des ressources qui sont dites non conventionnelles, donc qui viennent remplacer un déficit de ressources existantes, à savoir en traitant des eaux salées et en utilisant des ressources qui sont justement disponibles en termes énergétiques et en utilisant justement l'énergie solaire. Et c'est tout l'objet du brevet technologique qui est à l'origine de l'entreprise, l'association de l'osmose inverse avec...
On va y revenir, on va pas parler tout de suite technique, on va parler d'abord un peu de l'eau, si vous le voulez bien. Donc, en fait, vous nous dites, ça a fait le jour 2014, c'était déjà très en avance, puisque les problèmes, on a commencé à parler réellement des problèmes de la ressource eau l'année dernière. Bon, alors bien sûr, lié à ce qu'on voyait du réchauffement climatique, lié également à l'appel d'Antonio Guterres, hein, puisqu'il relançait une grande réunion onusienne sur les problèmes d'eau et les problèmes de gouvernance. Hein. Donc, le problème de l'eau émerge, médiatiquement depuis beaucoup plus tard que votre prise de conscience.
Effectivement, on est une entreprise qui a commencé à se développer sur l'export, avec principalement des zones où la problématique de l'accès en eau était déjà un problème il y a maintenant quasiment 10 ans.
Lesquelles, justement? Essayons d'être concrets. Vous avez commencé à travailler où?
On a commencé effectivement donc à travailler sur des zones qui étaient les côtes africaines, les zones insulaires du Pacifique. Donc on pense typiquement à des pays comme le Maroc, le Sénégal, la Mauritanie, même jusqu'en Afrique du Sud ou Mozambique, au Kenya. Donc vraiment, on a tout le tour des côtes d'Afrique et les îles du Pacifique. Ça va être surtout les îles basses, donc les îles où il n'y a pas de retenue naturelle dans des montagnes, avec des îles atolls, donc qui peuvent être autour de la Polynésie, même de la Calédonie également. Donc voilà, très concrètement, c'est ces zones-là et ces zones qui, en fait, souffrent du changement climatique depuis autant de temps que nous, mais où ça s'est manifesté plus rapidement. Et c'est dans ces géographies qu'ils sont plus vulnérables qu'on a en fait eu des besoins qui ont été les plus criants aujourd'hui. Et effectivement, ça fait aujourd'hui la une de l'actualité en France et depuis un peu plus d'un an maintenant. Mais c'est quelque chose qu'on avait quand même assez largement observé dans d'autres géographies et qui en fait a quand même été annoncé aussi par un certain nombre de rapports des organisations internationales, que ce soit l'ONU ou d'autres organisations sur des crises de l'eau à venir, des populations dont on parlait de plusieurs milliards qui seraient atteintes de problématiques d'accès à l'eau à l'horizon 2030. Tout ça, effectivement, ça avait une réalité dans le quotidien de certaines personnes, dans des populations qui étaient assez loin de la France, de la métropole, mais qui étaient bien réelles. Et on y est rattrapé aujourd'hui, effectivement, en France. Mais on le voit que ce qui touche la France métropolitaine est aussi, finalement, pas encore aussi grave que ce qu'on voit, par exemple, sur les zones d'outre-mer, comme à Mayotte aujourd'hui.
Donc, alors, voilà, bien sûr. Mais là, vous nous parlez essentiellement, finalement, du dessalement de l'eau de mer. Alors, parlons de l'eau saumâtre, puisque votre action va aussi, enfin, ça s'applique également sur les eaux saumâtres. Hein. Où les trouve-t-on et qu'est-ce que c'est, en gros?
Alors, donc l'eau de mer, concrètement, ça va avoir une salinité qui va être entre 35 grammes de sel par litre et parfois plus sur les zones des mers un petit peu salées, comme la mer Rouge, où ça peut monter à 45 grammes par litre.
Alors par que contre, dans une zone, une nappe phréatique normale, c'est 1% de sel.
Alors, ce qui est considéré comme potable par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est moins de 1 gramme par litre. Après, il y a évidemment beaucoup d'autres composants que les sels minéraux dans l'eau qui la rendent potable ou non. Mais ce qui se distingue très, pour rester sur des considérations simples, c'est en grammes de sel par litre, ça va être de l'eau saumâtre. On peut avoir des nœuds dans des nappes phréatiques entre 2 et 15 grammes de sel, où là on a des systèmes de dessalement déjà, de traitement d'eau saumâtre, mais qui vont fonctionner de manière un petit peu plus simple que de l'eau de mer où le niveau de salinité est plus élevé, donc le système est un petit peu plus complexe.
Mais pourtant, ça concerne aussi fortement les populations, les eaux saumâtres. Enfin, nous par exemple, en Languedoc-Roussillon, nous sommes très concernés par les eaux saumâtres.
Effectivement, il y a deux sources principales d'eau saumâtre. Il y a soit des eaux qui sont salées en fait et qui décomposent les minéraux au fil de l'infiltration des pluies et qui amènent à avoir une nappe riche en sel, mais qui peut être aussi riche en fer, riche en différents minéraux. Et sur la partie côtière, sur les zones côtières, on a un rapport de force entre l'eau de mer, donc qui est dans la mer évidemment, et sous la côte, on a des nappes phréatiques avec l'eau potable. Et lorsque la nappe est bien remplie, la nappe d'eau potable est bien remplie, l'eau de mer ne s'y infiltre pas. Si on a tout simplement une surexploitation de la nappe phréatique, ça va créer une sorte d'appel d'air finalement qui va être compensé par des infiltrations d'eau de mer. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir sur les zones côtières le biseau salin qui vient s'infiltrer dans les nappes d'eau potable, parfois jusqu'à, on voit au Bangladesh, dans le delta du Gange, jusqu'à une trentaine ou une cinquantaine de kilomètres à l'intérieur des terres. Donc ça peut évidemment, dans ce cas-là, impacter des millions de personnes qui reposent sur les nappes d'eau potable qui étaient potables avant qu'elles soient surexploitées et qu'elles soient infiltrées par l'eau de mer.
Alors, vous avez travaillé aussi en Afrique, je crois?
En Afrique, c'est ça, pardon.
Oui, je vous posais la question. Vous avez effectivement travaillé en Afrique, même au cœur de l'Afrique, parfois.
Bien sûr. Alors, effectivement, j'ai cité quelques pays sur lesquels on avait travaillé. L'exemple, par exemple, qu'on pourrait prendre, ce serait le Mozambique. Le Mozambique, c'est un pays qui est tout en longueur avec une façade côtière qui fait quasiment 3000 km. Mais donc on pourrait répondre à des besoins qui sont assez décentralisés parce qu'il y a une population qui n'est pas très importante. Donc, il pourrait y avoir des besoins pour les communautés côtières. Mais ce qu'on a fait, en fait, dans ces contextes-là, c'est plutôt des programmes de multiples installations. Donc, pour tous les villages, par exemple, d'une région donnée, financée par un bailleur international, pour aller offrir justement à ces populations une source d'eau potable, donc d'eau purifier, nettoyer via nos systèmes Osmosen pour qu'ils aient de l'eau potable dans ces villages alors qu'ils reposaient sur des nappes d'eau saumâtre. Et ce qui permet justement de simplifier l'accès à l'eau, parce que forcément s'il y a des populations, il y a déjà un accès à l'eau, et c'est vrai, une eau qui ne va pas être forcément salubre et qui peut être imposer des contraintes logistiques fortes pour aller la chercher, comme les femmes du village qui vont aller plusieurs heures par jour se déplacer au marigot à proximité. Donc de l'eau pas très propre et assez compliquée à aller collecter par rapport à un traitement de cette eau souterraine de Saumâtre sur un lieu donné directement sur site dans le village, avec des robinets, des bancs de fontaine qui permettent de livrer au bidon, au galon, ou même dans certains cas, il y a des réseaux de distribution qui sont mis en place, donc à partir d'un forage, un système de traitement, un château d'eau, et ensuite une distribution avec des robinets, soit par concession, soit même par foyer, ça peut dépendre des contextes.
Bien, alors, on va en reparler, même à la limite, c'est un petit peu ce qui nous attend ici. D'abord, si on a choisi de donner la parole dans Nous n'avons qu'une terre à Osmosun, c'est parce que c'est un peu quand même une entreprise de dessalement de l'eau mère ou un projet de dessalement qui est un peu différent de ce que l'on connaissait. Alors effectivement, de longue date, on dessale l'eau de mer, enfin c'est pas une nouveauté, sauf que ce dessalement coûte très cher en énergie. Il n'est pas considéré comme très écologique parce qu'il rejette en même temps des reliquats, notamment des saumures et notamment du sel. Et donc, pour l'instant, il n'apparaît pas vraiment comme une solution. Or, Osmosun se distingue un peu par le fait que, sur le plan de l'énergie, vous avez découvert, finalement, vous êtes une première mondiale.
Effectivement, et donc, comme je le mentionnais tout à l'heure, le brevet objet de la solution Osmosun, c'est vraiment l'association de l'osmose inverse avec l'énergie solaire. Alors, peut-être simplement revenir un petit peu sur d'abord qu'est-ce que c'est l'osmose et l'osmose inverse. Donc, avant d'inverser l'osmose, c'est d'abord l'effet d'osmose. L'effet d'osmose, c'est donc un équilibre entre deux fluides séparés par une membrane. Et on peut penser à différents contextes dans la nature dans lesquels ça existe, dans le corps humain et peut-être encore plus imagé, les racines des arbres, c'est des membranes d'osmose, en fait avec un liquide le plus dense, donc la sève, qui va naturellement quasiment aspirer en fait l'eau douce dans le sous-sol. Et donc inverser cet effet d'osmose, ça veut dire mettre sous pression le liquide le plus dense, donc dans le cadre du dessalement l'eau salée, pour en extraire, faire passer au travers cette membrane une partie de cette eau salée sans ses sels. Donc on va, à partir de ce système d'osmose inverse, d'un côté de la membrane avoir l'eau salée, l'autre côté l'eau potable, et l'eau salée va conserver en fait les sels qui sont extraits de l'eau potable, et donc on se retrouve avec l'eau potable d'un côté et un concentrat sursalé liquide de l'autre. Ça représente ensuite deux impacts majeurs en fait qui sont effectivement bien connus et que vous avez mentionné, qui est d'une part on a une consommation énergétique importante parce qu'il faut mettre cette eau salée sous pression pour qu'elle traverse la membrane, c'est inverser l'effet naturel. Et là, plus l'eau est salée, plus le besoin d'énergie est important parce que le niveau de pression pour inverser l'effet d'osmose va être important. Et quand on parle donc d'eau de mer à 35 grammes par litre, comme je le disais tout à l'heure, on va être sur de l'ordre de 60-70 bars de pression dans l'eau de mer pour produire de l'eau douce. Donc c'est cette énergie qui va consommer qui va être requise pour mettre sous pression, qui va forcément consommer de l'électricité, qui peut être alimentée par différentes sources, qui l'était historiquement beaucoup par les réseaux fortement carbonés du Moyen-Orient, typiquement où ces solutions ont vu le jour parce que c'était les zones où il y en avait le plus besoin. Voilà, maintenant.
On en avait à Mayotte aussi, qui était sous couvert français et qui était aussi très, très polluante, enfin très CO2.
Bien sûr. Effectivement, et puis Mayotte, effectivement, l'origine du dessalement, c'est avant tout les pays du Golfe, mais il y a beaucoup de zones géographiques et des contextes français dans lesquels il y en a depuis plus d'une vingtaine d'années, comme c'est le cas à Mayotte, comme c'est le cas à Saint-Martin, par exemple, aussi. Plus précisément, donc cette source d'électricité, elle va donc consommer de l'énergie pour mettre l'eau sous pression, pour traverser les membranes, mais elle peut difficilement être alimentée directement par une énergie renouvelable parce que les énergies renouvelables sont intermittentes. Et lorsqu'on a un niveau de pression important à maintenir pour traverser les membranes, si on a un nuage qui passe devant les panneaux solaires, on va avoir une forte baisse d'électricité produite. Et donc, on va avoir une force de baisse de pression qui peut endommager le système. Et c'est justement l'adaptation du système pour affronter ces fluctuations de production d'énergie solaire qui est l'objet de la solution Osmosun. Vraiment de savoir s'adapter, peu importe la puissance énergétique disponible à partir d'une source donnée, et en l'occurrence le solaire, le système va être protégé, maintenir des performances de fonctionnement et permettre une pérennité d'exploitation avec une ressource qui, en plus d'être décarbonée comme le solaire, est la plus compétitive qui soit. C'est-à-dire que quand on sait que les coûts d'exploitation du dessalement sont pour moitié des coûts énergétiques, utiliser une source d'énergie compétitive comme le solaire sans avoir besoin d'utiliser de batteries, de compléments du réseau ou autre, ça fait complètement sens. On voit peut-être à titre d'exemple que aujourd'hui dans les projets solaires, l'énergie solaire est vendue à moins de 2 centimes d'euros du kilowattheure.
Alors là, vous venez d'évoquer toute la dimension économique, mais il y a aussi toute la dimension environnementale. Donc vous avez traité 2 milliards de mètres cubes, je crois, déjà jusqu'à présent, ce qui équivaudrait, d'après ce que j'ai lu, à 300 tonnes de CO2 évitées.
C'est ça, effectivement. Donc, l'association du dessalement avec le solaire fait sens puisqu'elle est avant tout économique, parce que les leviers de décision des acteurs sont avant tout sur le prix de l'eau qui va être possible de produire, mais permet d'éviter évidemment des émissions de CO2. Donc ça, c'est pour le premier impact sur la partie énergie. Ensuite, sur la partie rejet, effectivement.
Oui, alors il nous reste effectivement la partie rejet, qui est souvent la plus difficile, enfin celle qui reste encore aujourd'hui, peut-être même pour vous, encore à traiter.
Effectivement, donc c'est une problématique parce que on divise deux fluides. Et lorsqu'on est typiquement au bord de la mer, on va renvoyer à la mer ce liquide sursalé dans la limite d'études d'impact environnemental qui vont le permettre. Mais ce qu'on cherche à faire, nous, chez Osmosun, avec l'idée qu'on puisse apporter une démarche la plus vertueuse possible pour produire de l'eau avec du dessalement, quand bien même le dessalement est utilisé à bon escient, hein, dans des contextes où il y a d'autres ressources disponibles, le dessalement ne sera pas pertinent. Mais lorsqu'il va être déterminé comme pertinent parce que les autres solutions d'approvisionnement en eau plus conventionnelles vont être déjà optimisées, par ça j'entends réparer les fuites dans les réseaux, j'entends optimiser la consommation à l'échelle à la fois des particuliers mais aussi des professionnels. J'entends aussi potentiellement faire des plans de réutilisation des eaux usées, de dire on va retraiter les eaux de la station d'épuration pour aller irriguer.
Donc tout ça doit se faire en même temps. On est d'accord.
Tout ça, c'est à faire avant de faire du dessalement.
Oui, bien sûr.
C'est aujourd'hui plus intéressant, plus encore une fois, économique, mais aussi finalement écologique, parce qu'il n'y a pas de consommation d'électricité. De même, on peut utiliser des sources d'électricité décarbonées.
En fait, ce qui fait aussi votre force, c'est que vous avez une vision environnementale importante, c'est-à-dire que Osmosun, d'accord, mais Osmosun après ce qu'il y aura été possible de faire.
Bien sûr. Effectivement, pour s'inscrire en fait dans la démarche dans le secteur de l'eau, il faut avoir une bonne compréhension du cycle de l'eau et des usages qui en est fait, pour savoir où justement proposer les solutions à bon escient pour qu'elles soient utilisées de manière efficace et que finalement ça fasse sens d'avancer sur un projet. Donc typiquement, voilà, lorsqu'on a fait tous ces process d'optimisation et qu'il y a toujours un déficit, on n'arrive pas à combler, à ce moment-là, oui, le dessalement pourra faire sens, que ce soit un déficit qui soit saisonnier, comme c'est le cas par exemple sur les îles Bretonnes, où on a 3 mois dans l'année où il y a beaucoup de touristes qui correspondent au mois de l'année où il y a le moins de précipitations, et dans ce cas-là, le dessalement permet de faire le complément qui permet de faire la jonction.
Ou des petits projets comme sur les ports, par exemple, j'ai vu à Port-Saint-Cyprien que vous aviez aussi des projets.
Exactement, c'est exactement la même chose, c'est un besoin qui est plus saisonnier que vraiment pérenne tout au fil de l'année, parce qu'on a plus d'usagers du port sur l'été, et donc plus de besoins d'eau, et à ce moment-là, il faut apporter un complément. Alors, on peut stocker de l'eau de manière saisonnière, mais à l'échelle de plusieurs mois, et compte tenu des volumes dont on parle, c'est quand même assez difficile.
Alors j'ai vu aussi que vous participiez à l'avenir des grands fleuves. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette opération ?
Bien sûr. Alors, typiquement, c'est une collaboration avec avec l'organisme des fleuves, des grands fleuves, qui est né à partir d'un constat sur un projet en Afrique du Sud. Et encore une fois, on va retomber sur la compréhension du cycle de l'eau avec un système de dessalement d'eau de mer qui a été installé à l'estuaire d'une rivière, donc dans de l'eau salée, pour une collectivité qui avait un besoin saisonnier d'ailleurs, parce qu'avec un tourisme assez fort, mais qui avait un besoin de sources d'alimentation en eau supplémentaires, parce que le réservoir, le barrage en amont de la rivière ne permettait pas d'alimenter à la fois les collectivités en amont du bassin et jusqu'à ce village sur la côte. Et donc, en allant proposer une solution de dessalement aux populations sur la côte, on a soulagé la tension sur ce même réservoir en amont de la même rivière, sur plusieurs collectivités, puisque n'ayant plus à livrer jusque sur la côte, on peut se concentrer à partir de l'eau stockée dans le barrage sur les quelques villages aux alentours, sans avoir besoin de distribuer sur l'intégralité du bassin versant, ce qui permet de soulager l'intégralité du bassin, et d'où cette réflexion qu'on a menée donc là sur ce projet bien précis en Afrique du Sud, mais qu'on constate, je citais le delta du Gange au Bangladesh, mais c'est la même chose sur le delta du Nil ou en Égypte, ou encore le delta du Mékong au Vietnam par exemple, où il y a des infiltrations d'eau salée et on permet de soulager l'amont du fleuve en allant approvisionner en eau dessalée les communautés plus sur la côte.
Alors c'est certainement moins important, mais est-ce que vous pourriez intervenir, par exemple, nous on vient de voir les communes autour de l'embouchure de l'Hérault se réunir en commission de bassin, parce que justement cette limite, cette barrière entre la mer et le fleuve va être mise à mal par la montée des eaux. Et donc, on voit les vignobles de plus en plus atteints aujourd'hui par les problèmes de salinisation, problèmes que vous avez dû rencontrer dans tous les deltas pour le riz, mais que nous rencontrons, nous, ici, pour la vigne. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, à terme, imaginer régler, sachant que nos nappes phréatiques ne sont pas réalimentées ?
Bien sûr. Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses qu'il est possible de faire, mais peut-être se référer d'abord au plan français qui sont donc organisés, donc le plan eau qui a été publié en printemps 2023 par le gouvernement pour proposer un ensemble de mesures visant à s'affranchir de la contrainte, ou en tout cas soulager la contrainte qui était imposée aux zones arides en fait de France par la sécheresse qu'on a eue l'été dernier, plus la sécheresse hivernale qu'on a eue aussi. Dans ce plan eau, et à l'image de tous les plans et les schémas directeurs qui sont faits sur le secteur de l'eau, c'est des vues un peu d'ensemble global pour justement essayer de régler les problématiques à l'échelle de l'ensemble de communautés et d'acteurs économiques, parce que c'est un peu ce qui va... Excusez-moi, j'ai un appel en même temps. C'est parce que ça va être cette problématique de régler l'accès à l'eau pour un ensemble d'acteurs économiques dans un bassin, et donc éviter les conflits d'usage. Pour ce faire, on a un certain nombre de leviers qui ont été soulignés dans ce plan eau, à commencer par l'optimisation de la sobriété, réduire un peu les consommations autant que possible des différents acteurs. Donc pour l'irrigation des vignobles, typiquement ce sera à déployer des systèmes de goutte à goutte si l'irrigation est requise, des systèmes de collecte ensuite des eaux de pluie et de retraitement des eaux usées pour l'irrigation. Et là, il y a un certain nombre de décrets qui ont été faits pour permettre ce qui s'appelle le REUT, donc réutilisation, qui n'était pas autorisé en France jusqu'à présent, mais qui l'est dans beaucoup de pays, jusqu'à permettre de réutiliser les eaux des égouts pour les rendre potables. C'est des traitements chimiques qui permettent de nettoyer ces eaux. Il y a des problématiques un peu sociales, d'acceptation et psychologiques presque. C'est un petit peu étrange.
Oui, nous allons en reparler largement, crois. Oui.
Mais typiquement, sur la France métropolitaine, c'est ce qui est mis en avant aujourd'hui. Et le plan eau du gouvernement n'évoque pas le dessalement, malheureusement, puisque ça aurait mérité
de souligner
peut-être la place qu'il pourrait prendre, qui est effectivement mineure en France, qui doit autant que possible rester sur la métropole.
Mais est-ce que c'est pas le moment de le faire, justement, au moment où on a ces remontées de biseaux?
Si, alors,
est-ce que ça sera pas trop tard après?
Alors, Disons qu'il faut faire les choses dans le bon ordre. Et d'abord, on est sur l'optimisation des ressources, effectivement. Donc, optimiser ce qui existe. Et comme ça se fait aujourd'hui, la Société des canaux de Provence ou d'autres qui transfèrent de l'eau depuis les Alpes, où il y a beaucoup d'eau, un réservoir naturel qui vient ensuite distribuer sur la côte jusqu'en Occitanie pour différentes collectivités. Donc tout ça, ça peut se faire effectivement. Mais si en parallèle on a un usage croissant parce que justement les chaleurs sont plus importantes et qu'il y a besoin d'irrigation supplémentaire pour les vignobles par exemple, à ce moment-là, oui, on peut commencer à réfléchir au système de dessalement, bien sûr, mais c'est là où c'est dommage que ça n'ait pas été inclus dans le plan eau, c'est que le dessalement doit se faire selon un certain nombre de règles de l'art, disons, pour que ça évite de générer des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires, avec notamment l'usage d'énergie décarbonée, et ensuite avec des traitements des rejets qui soient appropriés. Mais est-ce qu'il serait trop tard? Effectivement, si le biseau, une fois que le biseau est entré dans les nappes d'eau potable, c'est des process qui sont extrêmement longs à rétablir. Ça veut dire qu'il faut arrêter d'utiliser cette nappe phréatique, donc contrôler vraiment qu'il n'y ait aucun forage qui soit fait, et même des forages sauvages, puisque ça existe, hein, des personnes qui font des forages pour aller chercher directement de l'eau de la nappe pour alimenter leurs besoins sans les déclarer forcément. Donc ça mérite vraiment d'être très largement surveillé. Mais ce qui va être important également, c'est de réfléchir au remplissage de ces nappes, parce qu'on constate, et on a beaucoup d'études qui le démontrent, que les précipitations structurellement ne vont pas forcément réduire, mais vont être beaucoup plus concentrées sur des épisodes plus extrêmes, avec des pluies fortes et violentes, qui vont provoquer des inondations. Mais finalement, l'eau qu'on renvoie à la mer lors d'inondations, c'est de l'eau douce qui serait intéressant finalement de stocker d'une manière ou d'une autre. Donc il y a tout un travail à faire sur le drainage, la collecte de ces eaux de pluie, de ces fortes précipitations, pour qu'elles puissent potentiellement recharger les nappes plutôt que s'écouler à la mer. Et donc là, il y a beaucoup de travail à faire, mais il n'empêche que voilà, sur des zones reculées où il n'y a pas de possibilité de stockage de ces eaux, le dessalement pourrait avoir sa place sur différentes niches. Et puis peut-être pour élargir un petit peu la problématique et regarder à moyen terme, on a vu, nous, dans notre activité, les sujets de dessalement qui étaient d'abord voilà, dans les pays du Golfe Persique ou peut-être dans l'Afrique subsaharienne, en Mauritanie, puis progressivement c'est remonté au Maroc, où au Maroc on a constaté que dans un pays où le cycle de l'eau était très lisible, très simple, des régimes de précipitations réguliers, de l'eau qui était stockée dans les montagnes de l'Atlas avec de la neige, une distribution de via la fonte de cette neige et des rivières qui s'écoulaient quasiment sur toute l'année, et des besoins qui étaient assez limités avec le développement économique et la croissance démographique. On a eu un besoin qui est croissant, donc de plus en plus de besoins d'eau, et en parallèle de moins de neige et moins de pluie, et donc une pression des deux côtés, du côté de la production d'eau potable et du côté de la demande d'eau potable, qui font que le dessalement est devenu incontournable maintenant au Maroc. Ensuite, ça a été le cas...
Bon, Maxime, je crois que Maxime Thirion, malheureusement, on va être obligé de se quitter parce que c'est la fin de notre émission. De toute façon, je reviendrai vers vous parce que c'est passionnant. Et je crois que, puisque nous n'avons qu'une terre, essayez de voir un peu ce qui se passe à travers le monde. Je crois que vous aurez mille et une anecdotes à nous raconter encore sur ce problème de l'eau qui est loin, malheureusement, de s'achever. Donc, merci beaucoup de votre présence et de cette intervention. Et je vous dis à bientôt.
Merci. Au revoir.
Pour l'instant, je propose qu'on patiente et on avise.
Vous voulez qu'on patiente?
Nous ne sommes pas la solution, nous sommes le problème. Et nous en sommes encore à pérorer sur notre exemplarité.
Expliquez-nous comment.
C'est un monde où l'on tente de faire croire qu'une automobile de plus de 2 tonnes qui emmène 500 kilos de batterie est un objet écologique.
Si au lieu de détruire les forêts de Bornéo, d'où nous revenons, de Java, de Sumatra et de l'Afrique centrale, on protégeait ces forêts, il n'y aurait pas de danger.
On est en train de paniquer les populations, là.
Les mesures sautent, on est à plus 4 degrés, on parle d'apocalypse, on parle de... Non mais vraiment, c'est pas radical.
C'était Nous n'avons qu'une terre avec Dominique Martin-Ferrari sur le 93.9.